Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, une expédition dans les milieux les plus extrêmes de la planète, un voyage dans le monde des moustiques et les 10 ans du musée du Quai Branly. Je vous présente mes invités dans un instant. Seriez-vous prêt à circuler dans une voiture sans chauffeur programmée pour vous tuer? Eh bien, c'est la question très sérieuse posée aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, des chercheurs français et américains posent la bonne question. La voiture de demain sera-t-elle égoïste et tueuse ou altruiste et suicidaire? Le dilemme cornélien des voitures autonomes, c'est dans un instant à la une.
Et Stéphanie Texier réalise cette émission préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Dylan Bainer.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Expédition de l'extrême moustique et l'anniversaire du musée du Quai Branly avec mes invités que je salue, l'explorateur Christian Clos, le neurobiologiste Étienne Quéclin, le réalisateur Patrice Dessène, l'entomologiste Annabella Fayou et Frédéric Keck pour le Quai Branly. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bienvenue Christian Clos, Étienne Quéclin, c'est parti. Hein, 4 expéditions dans les 4 plus grands climats du monde. Vous commencez par quel milieu, Christian Clos?
Le chaud sec, désert du Dachteloute en Iran.
Et ce sera pour quand?
Ça démarre en août.
Le mental est bon avant de partir?
J'ai aussi bon que possible, partir c'est toujours beau, revenir c'est toujours intéressant pour repartir ensuite, donc faut partir.
Ouais. Vous allez donc étudier le cerveau et la façon dont il s'adapte à ces différentes situations extrêmes, Étienne Quéclin?
Oui, alors c'est une grande aventure scientifique puisque c'est une première mondiale, hein. Étudier la plasticité du cerveau dans des environnements extrêmes, ça n'a jamais été fait encore. Mmh. Donc on part à l'aventure.
C'est bien, oui, adaptation, 4 fois 30 jours dans les climats les plus extrêmes, c'est donc le nom de cette expédition. Patrice Dessène, Annabella Fayou, le documentaire Invasion Moustique va être diffusé demain à 19h sur France 5. Vous êtes intéressé au plus grand serial killer de la planète, hein, Patrice Dessène, c'est ça au fond, hein?
Oui, complètement, et puis Brexit ou pas, il passera le Chanel.
Ouais. Combien de morts chaque année, a priori, dû aux moustiques?
C'est difficile à estimer parce qu'il faudrait cumuler toutes les maladies qui sont dues aux moustiques et il y en a beaucoup, ouais. Enfin, via les virus et via les parasites.
Au moins 700 000 en tout cas au minimum, hein, selon les estimations. Annabella Fayou, la progression du moustique tigre en Europe, ça vous inquiète ou pas?
C'est quelque chose qui est tout à fait attendu. Et puis les moustiques ne connaissent pas les frontières. Donc il est arrivé en Italie et se propage aujourd'hui un peu partout. Et il est présent dans 20 pays européens.
Ouais.
Et pas encore le Royaume-Uni.
Ouais. Donc il mérite quand même toute notre attention.
Hein. Exactement.
Frédéric Keck, 10 ans pour le musée du Quai Branly à Paris avec un grand week-end porte ouverte, hein, demain et dimanche, en ces temps justement de repli sur soi. Ça fait du bien de montrer la diversité du monde et les cultures.
Hein. Oui, le musée du Quai Branly, c'est un endroit où on rencontre les sociétés les plus éloignées par le choc esthétique avec les objets qui viennent de ces sociétés. C'est aussi une réflexion sur l'histoire de la France dans ses rapports avec l'étranger, par la colonisation, les cabinets royaux et puis aujourd'hui la place dans la mondialisation.
Et on évoquera l'exposition Hommage à Jacques Chirac et puis le rôle de la recherche au sein d'un musée comme celui-là. Les auditeurs nous rejoignent sur latetetaucarre@radiofrance.com et puis également Twitter et Facebook. Seriez-vous capable d'acheter une voiture programmée pour vous tuer? Question posée aujourd'hui à la une de la science.
Imaginez que vous vouliez acheter une voiture et qu'on vous offre le choix entre une voiture programmée pour sacrifier votre vie au profit de nombreux autres ou une voiture qui préserve votre vie à tout prix. Laquelle choisiriez-vous?
Avec les voitures autonomes qui sont donc pour demain, eh bien les constructeurs et les États vont devoir plancher sur un problème cornélien et des questions éthiques d'importance. Comment doit réagir la voiture quand elle a le choix entre écraser des piétons ou sacrifier son passager? Bonjour Jean-François Bonnefond.
Bonjour.
C'est donc cette question très sérieuse que vous posez dans une publication parue aujourd'hui dans la revue Science. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, directeur de recherche au CNRS. Dans quelles circonstances une voiture autonome pourrait justement être programmée pour tuer son conducteur? Enfin, son passager, là, en l'occurrence, puisqu'il conduira pas.
Hein. Oui, c'est une erreur commune. Donc, ce qui peut se passer, ce qu'on espère qu'il ne se passera pas, mais ce qui peut se passer, c'est qu'une voiture autonome ait le choix entre deux catastrophes. C'est-à-dire qu'elle réalise, qu'elle est sur le point d'écraser un certain nombre de gens sur la route et que la seule possibilité pour les sauver, eh bien, c'est de se détruire elle-même en sacrifiant son conducteur.
Mmh. Et vous avez posé la question donc à 2000 Américains, la voiture sans chauffeur doit-elle sacrifier son chauffeur pour le bien du plus grand nombre? Quelle a été la réponse des sondés?
Oui, on est curieux de savoir.
Alors, à la question vraiment, est-ce que la voiture doit sacrifier son passager, il y a un très fort consensus moral. Vraiment, les gens que nous interrogeons, en général, une opinion très forte qui nous dit qu'il faut que la voiture sacrifie le passager.
Mmh. 75% des personnes interrogées, je crois, hein, dans cette enquête.
75%. 75% des personnes interrogées, mais aussi quand on demande aux gens, par exemple, sur une échelle de 0 à 100, à quel point ils sont certains de cette réponse-là, on obtient en général du 80-90.
Est-ce que c'est dépendant du nombre de personnes présentes dans la voiture ?
Alors, c'est effectivement une fonction du nombre de personnes qui sont dans la voiture et dehors.
D'accord. Ouais. Et le paradoxe apparaît donc lorsque vous leur demandez s'ils seraient disposés à acheter cette voiture.
Exactement, parce qu'il y a une position qui est morale qui est très forte. Les gens disent que la voiture devrait sacrifier son passager au profit des gens qui sont sur la route. Mais quand on leur demande s'ils souhaitent eux-mêmes posséder une voiture qui est programmée pour faire cela, eh bien ils hésitent, voire ils nous disent que non, ils préféreraient une voiture qui les protège à tout prix.
Et là, quel est le pourcentage par rapport à la première question, alors Jean-François Bonnefond ?
Alors, le plus extrême, c'est quand les gens pensent à la situation où leurs enfants sont dans la voiture, par exemple. Mmh. Et là, c'est 90% qui nous disent « je préfère une voiture qui va me protéger, moi et mes passagers, coûte que coûte ».
Ouais. En combien de temps se joue le choix pour le logiciel de la voiture ?
Alors ça, je ne pourrais vraiment pas vous le dire. En tout cas, en un laps de temps qui serait absolument impossible pour un humain pour prendre la décision.
Est-ce que vous suggérez qu'il faille légiférer sur ce genre de questions ?
Alors, c'est une solution. Quand on est dans une situation où il y a une situation qui est collectivement la meilleure, par exemple, tout le monde se déplace dans des voitures qui sauvent le plus grand nombre, mais que chaque personne a un intérêt égoïste à ne pas faire l'action qui va mener à cette situation collective la meilleure, alors la réglementation, la législation, ça peut être une solution. Oui.
Ouais, ça va être très très compliqué quand même pour les constructeurs d'automobiles autonomes de faire la publicité justement de leur véhicule, sachant justement ces conditions particulières, dans certains cas de figure en tous les cas.
Alors ça, c'est un immense point d'interrogation, c'est-à-dire à quel point la programmation des véhicules sera transparente.
Une petite question qui m'est venue. Instinctivement, un chauffeur aujourd'hui qui conduit, quel est son choix ?
Ça, malheureusement, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de boîte noire dans les voitures.
Mm-hmm.
Donc, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait même pas si le conducteur qui était dans la voiture a même réalisé qu'il était dans cette situation-là.
Mais on voit quand même qu'on a des réflexes dans certains cas. Par exemple, lorsqu'un animal traverse la route sur laquelle nous roulons, on a plutôt l'instinct de vouloir l'éviter quand même. Donc on peut imaginer que face à un groupe de personnes, on sacrifierait notre vie de toute façon par instinct, non ?
Je ne sais pas, si vous êtes sur une route de montagne avec une falaise à votre gauche et que vous voyez un animal qui arrive, vous allez donner un coup de volant dans le vide, ça je ne sais pas. Hein,
ouais.
C'est un
ouais.
Est-ce que vous avez estimé la fréquence de ce genre de situation vraiment très particulière ?
Encore une fois, c'est impossible à estimer. C'est impossible parce qu'on n'a aucun recul, parce que les conducteurs qui se sont trouvés dans cette situation-là, peut-être ne s'en sont pas rendus compte, parfois sont morts, et on n'a pas d'enregistrement.
En tout cas, il y aura des solutions technologiques qui seront mises au point, a priori, pour essayer de sortir de ce type de dilemme ou pas ?
Eh bien, la solution, évidemment, idéale, ça serait de ne jamais se retrouver dans cette situation.
Oui, mais là, vous bottez en tout cas.
Donc, c'est la réponse que vont donner, en général, les constructeurs. C'est-à-dire que la priorité, ça n'est pas de décider ce que va faire la voiture dans cette situation-là, c'est de la développer à un tel point qu'elle n'y sera jamais.
Oui, mais ça, c'est pas une solution technologique. Donc, c'est juste le choix du conducteur, enfin, de la personne dans la voiture, ou de la voiture en l'occurrence.
Mais est-ce que le dilemme se résume simplement à opposer des intentions d'achat avec de la sécurité ? Parce que c'est un peu ça le fond de la question.
Opposer les intentions d'achat de la sécurité, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Hein.
Vous dites que les personnes questionnées auraient l'intention de ne pas acheter ce type de véhicule, et s'il était programmé pour être égoïste, il l'achèterait plus volontiers. Donc c'est un problème économique au final.
Tout à fait, exactement. C'est un problème économique, et pour un gouvernement qui voudrait réguler, c'est un problème qui est vraiment très compliqué, parce que en voulant bien faire, un gouvernement qui passerait une loi qui obligerait les voitures donc à se sacrifier pour le plus grand nombre, découragerait aussi un certain nombre de consommateurs de passer à la voiture autonome, qui est quand même beaucoup moins risquée, a priori, hein, que de conduire tout seul. Et donc ça veut dire qu'en essayant de sauver quelques vies par un algorithme, on pourrait se trouver responsable de milliers d'accidents qui auraient pu être évités si les gens étaient passés à la voiture autonome.
Jean-François Bonnefond, ce type de questions morales, il va falloir s'y habituer, elles vont se poser de plus en plus face à ces nouvelles technologies ?
C'est très possible et c'est très nouveau, hein, parce que jusqu'ici, jamais, je pense, dans l'histoire de notre espèce, nous avons interagi tous les jours avec un objet qui peut intentionnellement nous tuer à un moment ou à un autre. Mmh. Nous possédons des objets dangereux, hein, des armes, des tronçonneuses, on peut se tuer avec si on fait une erreur. Là, c'est la première fois qu'on pourrait interagir avec un objet qui nous tue alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait.
Mmh. Axel, on peut se frotter d'ailleurs au scénario, oui. Hein, avec un site internet.
Vous avez mis en place une plateforme où on peut se tester face à différentes situations. Ça s'appelle Moral Machine. On va mettre le lien sur la page Facebook. Vous invitez les gens à essayer. Est-ce que vous allez récolter les données pour d'autres études?
Alors, ces données-là ne nous serviront pas à des études scientifiques, mais elles pourront éventuellement nous aiguiller vers des situations que les gens ont trouvées particulièrement difficiles.
D'accord.
Donc, pour ceux qui souhaitent eh bien tester justement leur morale face à ce type de véhicule, eh bien vous allez sur Moral Machine, c'est en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup Jean-François Bonnefond. Merci parce que vous arrivez juste d'un vol Canada-France, donc vous êtes vraiment à la sortie de l'avion. Hein. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci Axel.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la musicothérapie utile dans le traitement de la douleur. Un projet de recherche un peu particulier mêlant médecine et violoncelle est en cours à l'hôpital Sainte-Périne à Paris dans un service de soins palliatifs. Baptisé Pansement de Schubert, une violoncelliste joue pour des patients en fin de vie. Bien qu'il ne remplace pas la morphine, ce pansement musical donc soulage et apaise. Selon les médecins, la douleur ressentie diminuerait de 10 à 30% chez les patients lorsqu'ils écoutent le violoncelle au moment de la réalisation des gestes médicaux quotidiens. D'autres applications, par exemple en gériatrie, pourraient suivre. Un microbe se nourrissant d'électricité a été retrouvé sur le plancher océanique de l'île Catalina au sud de la Californie. Selon la revue Quanta Magazine, ces microbes consomment des électrons en les aspirant, des minerais et des métaux. Bien que ce phénomène était déjà documenté, il subsistait un doute. En effet, ces microbes transportent les électrons directement à travers leurs membranes. Chose étrange, puisque ces dernières agissent comme des isolants. Les scientifiques pensent désormais avoir compris ce mécanisme. Des protéines externes jouent le rôle de messagers chimiques aidant les électrons à traverser la membrane. Et puis si vous êtes fan de Game of Thrones, vous connaissez sans nul doute Fantôme, Vengris ou encore Nymeria, les loups géants de la famille Stark. Eh bien ces loups ont réellement existé. Nommé Canis dirus, cet animal préhistorique vivait au Pléistocène en Amérique du Nord il y a 125 000 ans. Bien plus gros que le loup gris, il mesure environ 1,50 m pour 80 kg, une belle bête, donc la taille d'un poney. Il possédait des dents plus grandes et plus fortes, capables de broyer des os. Il est probable qu'il n'était pas bon coureur et qu'il se nourrissait de charognes ou d'animaux peu rapides et de grande taille. Sa disparition il y a 10 000 ans reste encore un mystère. Allez, le club des têtes au carré dans un instant. Burn the Witch, nouvel album Radiohead à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Une expédition dans les milieux les plus extrêmes de notre planète, un voyage donc dans le monde des moustiques et puis les 10 ans du musée du Quai Branly dans le club cet après-midi. On commence donc avec cette expédition adaptation, 4 fois 30 jours dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Christian Clos, vous
êtes... bien, hein.
Ah oui, oui, ça, déjà on a envie d'en savoir plus. Vous êtes explorateur, auteur, conférencier et puis à vos côtés Étienne Quéclin. Vous êtes neurobiologiste, chercheur à l'INSERM et à l'ENS. Vous dirigez le laboratoire de neurosciences cognitives. Quels sont d'ailleurs vos thèmes de recherche au sein de ce laboratoire?
Alors, moi, personnellement, je travaille plus particulièrement sur le jugement et la prise de décision, donc tout ce qu'on appelle la fonction frontale. Mm-hmm. Mais dans le laboratoire, donc j'ai des collègues qui travaillent sur ce qu'on appelle la cognition sociale, hein, l'empathie, ce genre de choses, sur la conscience également, l'attention... Voilà, essentiellement. On travaille généralement sur les facultés mentales qui sont plus spécifiquement humaines.
Oui, donc le cerveau de Christian Clos vous intéresse au plus haut point dans ces conditions tout à fait particulières.
Oui, bien sûr. Bon, enfin, on s'intéresse au cerveau en général. Donc Christian Clos, bon, il est très intéressant. Quoi, je m'entends très bien
super,
avec lui.
Ah ben j'espère. Je faisais quand même pas mal de mois à passer ensemble.
Oui, oui, oui. Mais bon, effectivement, non. On s'intéresse au cerveau. Donc Christian Clos a un cerveau peut-être très particulier. Je sais pas.
Surtout dans les conditions qu'il va vivre à partir du mois d'août prochain. Christian Clos, les milieux extrêmes, d'abord, c'est la grande affaire de votre vie. Hein. Comment vous avez commencé à vous y intéresser ?
Je m'y suis intéressé parce que je me suis d'abord intéressé aux milieux géographiques en général. L'humain vit sur un système géographique. J'ai voulu questionner comment l'humain vivait sur ce système. Puis ensuite, comment l'humain était capable de s'y adapter, d'y rentrer. Et forcément, il faut aller aujourd'hui dans les milieux encore non humanisés pour essayer de réfléchir comment on s'y adapte, pour recomprendre ce qu'a été le développement humain au fil des siècles.
Votre première confrontation avec un milieu extrême, vous vous en souvenez très bien ou pas ?
Ouais, c'était la forêt derrière la maison de mes parents. J'avais 4 ans.
Ah, c'est vrai ?
Je me suis perdu dedans. Et il y avait des moustiques d'ailleurs. Et non, c'est fou, le côté extrême, c'est quand même quelque chose qu'on projette. Et c'est vrai que...
Ça vous a marqué à 4 ans?
Oui, complètement.
On est très marqué par ce type d'aventure.
Très marqué. Le vrai extrême, c'est quand on se perd, qu'on passe une nuit dehors, puis quand on revient, qu'on retrouve ses parents. Là, je peux vous dire que c'est extrême.
Hein. Ah oui, vous êtes resté longtemps quand même.
Hein. Les parents, ils vont comprendre que c'est pas un truc à refaire. Quoi.
Ouais. Voilà. Donc c'est marrant parce que vous l'avez transformé au fond. Hein. Vous en avez fait quelque chose en tout cas de cette peur d'enfance.
C'est vrai que les milieux extrêmes font peur forcément, et je trouve que cette peur, elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à nous projeter sur quelque chose qui nous questionne en tant qu'humain, à savoir comment aujourd'hui on va se développer dans des mondes qui évoluent, des mondes qui changent, qui sur le papier, certains annoncent des côtés très extrêmes pour le futur. Qu'est-ce qu'ils seront ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on se prépare à se questionner dans le confort qui est le nôtre aujourd'hui de ce que serait le nouveau monde, un peu moins confortable, dans lequel on va devoir arriver quand même vers une baisse un peu d'une consommation absolue et donc peut-être trouver un rapport à la nature plus profond. Mmh. C'est ce qu'on questionne.
Vous seriez prêt pour aller sur la planète Mars, alors quasiment
parce que là, ah oui, 100%.
Là, les hommes vont être vraiment confrontés à des milieux extrêmes.
Et ils auront finalement un confort plus grand que ce qu'on aura, nous, dans notre expédition, mais bien sûr, non, ça fait partie des idées de pouvoir se déplacer. Mais je crois qu'avant d'aller sur Mars, on a vraiment à se questionner sur ce qu'est l'humain, sur ce qu'on est nous, sur notre planète. Et peut-être qu'avant de vouloir aller coloniser d'autres endroits, réfléchissons ce que nous sommes en tant qu'humanité. Et aujourd'hui, on le voit tous les jours, il y a de quoi se questionner. Et finalement, ce genre d'expéditions qui paraissent très lointaines dans des milieux extrêmes sont aussi faites pour aller chercher ce que nous sommes en tant qu'humains dans notre cerveau.
Ouais. Étienne Quéclin, justement, le cerveau face à la peur, ça c'est aussi un thème de recherche pour vous, d'observation ?
Oui, bien sûr, la peur est une composante biologique très importante. Ce qui nous intéresse, nous scientifiquement dans le projet, c'est essentiellement comment le cerveau s'adapte à un environnement physique nouveau. Mm-hmm. Donc les conditions extrêmes, bon, scientifiquement ça nous intéresse, mais c'est surtout intéressant parce que sur une période de 30 jours, le milieu extrême va induire des changements qu'on va pouvoir observer. Parce que sinon, sur une période de 30 jours, on observerait probablement peu de changements. Donc c'est ça qui nous intéresse et c'est nouveau puisque on connaît par exemple la plasticité du cerveau suite à des apprentissages.
Oui.
Mais là c'est différent, c'est plus que des apprentissages, c'est une adaptation à un nouvel environnement de vie. Et on connaît très peu de choses là-dessus, et donc on va découvrir, c'est l'aventure, comme je disais tout à l'heure.
Ouais. Patrice de Seine, qui lui aussi a vécu un milieu extrême en allant tourner les moustiques dans tous les pays du monde.
Les moustiques et les camélidés, je voulais vous poser cette question, ils ont 45 millions d'années d'évolution dans les milieux les plus extrêmes, et ils ont évolué pas uniquement au niveau du cerveau, je pense au niveau biologique et physiologique. Est-ce que vous pensez que les hommes vont faire pareil ?
Oui, bien sûr. Le cerveau n'est qu'une composante. Il y a évidemment des adaptations physiologiques qui vont se faire. Si vous voulez, la difficulté dans ce genre de projet, c'est qu'on voudrait tout étudier, en quelque sorte, puisque c'est un projet assez exceptionnel. Ouais. On voudrait étudier plein d'aspects d'adaptation physiologique corporelle, à tous les niveaux, au niveau cérébral, etc. Donc on va en faire un certain nombre, même au niveau des adaptations cérébrales et des adaptations, donc des fonctions cognitives qui vont être associées. On voudrait étudier des milliards de choses, c'est pas possible. Donc on est obligé de se limiter à un certain nombre de choses.
Christian Clos.
Mais c'est incroyable, j'ai fait beaucoup d'expéditions, dont une qui est passée 3 mois et 3 mois dans 2 milieux opposés, à savoir la Pampa argentine où on marchait, et ensuite les canaux de Patagonie où on était en kayak, où les conditions sont totalement opposées. C'est incroyable, en peu de temps, comme on a vu nos corps se modifier avec, de manière assez profonde, entre le haut et le bas du corps et tout ça. Alors c'est une modification qui paraît que musculaire, mais c'est pas que ça. Et je trouve assez impressionnant d'observer ça. Oui.
Ouais. Frédéric Keck, Claude Lévi-Strauss, que vous avez bien connu, hein, est-ce qu'il a parlé justement de la vie justement dans cette forêt amazonienne dans laquelle il a vécu pendant assez longtemps et de ce que ça représentait aussi comme prouesse physique, physiologique, mentale?
Oui, il a surtout parlé de l'exubérance de la végétation qu'il a beaucoup émerveillé. Mais c'est vrai que l'expédition qu'il a faite au Brésil en 1934 et ensuite en 1938 a été éprouvante puisque son épouse Dina Dreyfus a eu une maladie de l'œil, ce qui l'a obligé à revenir à Rio. Donc oui, les expéditions ethnographiques sont souvent des expéditions extrêmes.
Christian Clos, alors 4 expéditions, donc la première en Iran, ça sera pour le mois d'août, là c'est vraiment 80 degrés au sol, c'est ça?
Oui, alors disons plutôt 60 degrés de température réelle, parce que la température au sol, il faut relativiser cette notion-là, c'est une température à l'ombre de 60 degrés, ça veut dire qu'en plein soleil, effectivement, il fait très chaud.
Bon.
Sec, 2% d'humidité, c'est donc quasiment aucune humidité.
Ensuite, ce sera le froid et l'humidité, justement, au Chili.
Au Chili, canaux chiliens de Patagonie, 10 000 mm de pluie par an. Juste pour donner un comparatif, ça fait 800 mm par mois. Ici, en France, on est à 600 mm par an. Ouais. Donc voilà un peu l'humidité. Et en plus, on peut avoir une humidité à température négative, ce qui est sans doute une des choses les plus difficiles à vivre.
Ensuite, les conditions chaudes et humides, là, ce sera justement sur le Brésil et la forêt amazonienne.
Là, on va plus chez les moustiques, pour le coup. Donc, la forêt amazonienne, ou peut-être c'est une de mes plus grandes inquiétudes d'ailleurs, en parenthèse. Hein,
c'est vrai?
Oui, cette protection du moustique, parce que finalement, les gros animaux, on arrive à gérer, à les repérer, mais les moustiques sont partout. Quasiment pas sont protégés.
Emmenez Annabella Fayeux avec vous, une entomologiste.
J'ai beaucoup à apprendre.
Vous attirez les moustiques?
Alors, c'est pour ça que je prends une amie d'habitude avec moi qui attire beaucoup plus les moustiques que moi, donc c'est un peu mon petit moustique, mais là, elle n'est pas là, quoi. Je serai tout seul.
Et puis enfin, un milieu plus froid et sec en Russie, ce sera la dernière étape.
Froid sec, Sibérie orientale, dans les monts Verkhoyansk, intéressant, moins 60 degrés pour le coup, donc l'opposé, une hygrométrie aussi très faible. Donc ça va être assez intéressant parce que c'est vraiment 30 jours dans chacun de ces milieux, quelques jours entre chaque milieu ensuite, donc à chaque fois, un retour à un confort. Et un redépart à l'inconfort, et c'est aussi ça qui va être un vrai questionnement sur cette capacité qu'on a de résister et de s'adapter à tous ces changements.
Et bien justement, écoutez le retour d'un homme d'aventure, Maurice Herzog, c'était en 1950, de retour de l'Annapurna à l'aventure de l'Himalaya.
Voici un des membres de l'expédition qui est tenu par un de ses camarades. Les deux pieds de ce garçon, c'est la chenale, sont entourés de pansements. Il a sans doute été gelé, comme a été gelé Herzog. Et je vais m'approcher en attendant la sortie de Maurice Herzog pour lui demander des impressions. Voici les premiers membres de l'expédition. Voici Maurice Herzog porté par deux de ses camarades qui a la main droite complètement entourée de pansements et les deux pieds. Maurice Herzog est porté par Ishak et par un autre de ses camarades. Bonjour Maurice, je m'approche de lui en ce moment. Bonjour Maurice, comment vas-tu ma pauvre vieille? Ça va mon fils? Bonjour Maurice, dis-moi quelques mots, comment vas-tu?
Écoute, je vais très bien, mais si je vais pas cette petite chose qui sont là.
C'est rien, Maurice.
Voilà, c'est Georges Decaune qui s'adresse à Maurice Herzog en lui disant « Comment vas-tu ma vieille, ma pauvre vieille, comment vas-tu mon fils ?» Voilà. Donc Christian Clos, c'était pour vous, mettre un peu en condition de vos retours, peut-être, des milieux froids. C'est sympa, non hein?
Oui, ça fait un peu comme attention de la tête au carré. Comme ça.
Oui. Mais vous pensez vraiment aussi à ces phases de retour qui sont difficiles aussi à gérer, hein, c'est ce que vous dites. Hein.
Oui, la phase de retour, il y a toujours une petite mort, hein, quand on arrête une expédition, quand on revient, on a vécu quelque chose de tellement intense, tellement profond, tellement séduisant, que effectivement, le retour est parfois, peut paraître un peu morne, et il faut se méfier de ça aussi.
Étienne Quéclin, vous serez où? Vous serez avec lui sur le terrain ou vous allez rester au chaud dans votre laboratoire? Ou au froid d'ailleurs dans
Non, je serai en partie avec lui sur le terrain, puisque dans cette première phase, je vais me déplacer donc avec quelques collègues du laboratoire sur place pour avoir un peu une idée de ce qu'on peut faire sur place et puis de comprendre un peu mieux, d'avoir une meilleure intuition des conditions pour qu'on puisse caler les dernières expériences, les derniers protocoles, etc. Mais je ne vais pas le suivre pendant 30 jours. Moi, je ferai peut-être du tourisme à côté.
Si, tu vas voir, ça va être bien. Qu'est-ce qui compte le plus dans ce type d'expédition face à des conditions épouvantables? C'est vraiment d'avoir un mental d'acier?
Le mental fait tout. Le côté physique pur, au bout de 3-4 jours, il ne sert plus à grand-chose. Donc, c'est vraiment le mental, la volonté, la motivation, l'envie. On pourrait mettre plein de mots là-dessus. C'est finalement cette envie profonde. Là, dans le cas présent, c'est clairement les études scientifiques qui sont notre moteur et c'est très, très fort que de partir dans des milieux si particuliers, non pas juste pour y faire un bel exploit sportif, parce que finalement ce serait facile à faire, entre guillemets, que de vouloir vraiment y questionner des notions scientifiques qui vont nous demander un travail sur le terrain assez complexe, assez intéressant. Moi, c'est ça qui me motive aujourd'hui.
Et j'ai vu que vous alliez monter un groupe de 20 personnes pour partir avec vous dans la deuxième phase de l'expédition.
Mais oui, alors c'est d'ailleurs...
On peut postuler ou pas? Il faut postuler. Il faut quoi pour y aller?
Non, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je crois que c'est aussi un peu une sorte de première en tant que telle, même si ça a déjà été fait de manière différente. On va l'année prochaine refaire, donc c'est 4 traversées, les mêmes endroits, 30 jours de traversée, une quinzaine de jours de chaque traversée, avec 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, d'accord, qu'on va sélectionner dans ces prochains mois. Et donc, ouvert à tout le monde. Au contraire, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des expéditions, on n'a pas besoin d'être un super sportif d'élite. Au contraire, on veut des gens qui ont des motivations variées, diverses. Ouais. Et donc, voilà, bienvenue à tout le monde. Postulez, ça vaut la peine, ce serait une aventure d'une vie.
Annabella Fayou, ça vous intéresse?
J'imagine, quels sont les critères de sélection là, la taille du muscle, la taille du...
Non, justement pas. Les critères, c'est une bonne condition physique et mentale, on va dire. Et puis, il y a des critères d'âge aussi. On ne va peut-être pas prendre des gens qui ont 90 ans, même si on le souhaiterait.
Ça serait intéressant.
Pas tout de suite.
Il faut pas dans un premier temps, en tout cas.
Faire une première démarche, c'est-à-dire qu'on va faire cette expédition, on va avoir des résultats. Peut-être que derrière, d'autres choses pourront se monter, mais là, il faut... Bon. C'est la première fois que ça se fait, donc il faut quand même qu'on parte avec des gens qui ont...
J'invite effectivement tous ceux qui nous entendent à postuler s'ils sont intéressés. Il faut une forte motivation, mais on cherche... comme on dit, des personnes lambda, quoi, qui ont une vie urbaine classique.
Qu'on va préparer pendant 6 mois avant de partir. Donc rassurez-vous, si vous postulez, vous ne serez pas lâché dans la nature tout seul. On sera ensemble, un groupe de 20 personnes qui va progresser ensemble avec la volonté de faire des choses communes.
Mamie, si tu m'entends, désolé, mais tu ne pourras pas partir à l'occasion de cette deuxième phase d'adaptation. On fait comment pour postuler? Il y a un site internet ou pas?
On va sur le site adaptation 4x30, 4x30, et là on pourra postuler. Il y a tout ce qu'il faut pour.
Bon, je suis sûr que c'est déjà en lien sur la tête au carré. Merci beaucoup Christian Clot et Étienne Coquelin. Vous restez avec nous, on va parler de moustiques, donc là aussi vous avez certainement des choses à apprendre.
J'écoute parce que je vais aller en Amazonie, donc...
Voilà, ça sera dans un instant.
Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt, se meurt. Les étoiles, j'entends ta voix crier tout bas, mes mains se perdent, ton souffle tiède, c'est informel, la scène est belle, je ne te quitte plus, ça c'est bien moi. S'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. Se meurt.
des enfants. On jette des mots au fond de l'eau. On sort, on veille, on s'émerveille. Les mois défilent. S'accapare, nos rires s'égarent, sans écho, sans écho. Le courant t'emporte, j'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore, nos corps qui se balancent. Dans ce cœur à cœur, notre âme au fond se meurt. L'âme au fond se meurt. Je
Un océan d'amour, extrait de son dernier album Christophe dans le club des Têtes au Carré. Patrice de Seine, vous êtes avec Frédéric Létan, le réalisateur de ce documentaire Invasion Moustique, ça fait peur, qui sera diffusé demain à 19h sur France 5, et puis le 27 juin aussi, hein, 14h50, dans la collection documentaire L'Empire des Sciences, et puis Anna Bella-Fayou, vous êtes entomologiste, responsable du laboratoire Arbovirus et Insectes Vecteurs à l'Institut Pasteur. C'est quoi un arbovirus exactement ?
Alors, un arbovirus, c'est un virus qui est transmis par des arthropodes. Donc, arthropodes et les moustiques. Donc, c'est tous les virus transmis par des moustiques. Bon, en exemple, vous avez la dengue, le chikungunya, le zika, la fièvre.
Une belle palette, hein, maintenant.
Oui,
quand même,
oui,
hein.
Des choses dont on entend parler aujourd'hui et qui font l'actualité. Et c'est des virus qui sont assez anciens. Hein. Qui ont existé depuis très très longtemps en Afrique. Et on en entend parler aujourd'hui parce qu'ils sortent d'Afrique et ils atteignent des zones un peu plus occidentalisé, on dira.
Et vous travaillez au sein d'un réseau international hein, qui compte 33 instituts sur les 5 continents. Hein.
Exactement, nous avons la chance d'avoir un réseau des instituts Pasteur qui couvre en fait la zone tropicale et donc avec une étude des pathologies liées aux moustiques assez large et ce qui fait la richesse en fait de ces études.
C'est quoi la grande question sur laquelle travaillent les laboratoires du monde entier aujourd'hui autour du moustique ? C'est la façon d'éradiquer ces insectes ou...
En fait, déjà avant d'éradiquer quoi que ce soit, il faut déjà comprendre un peu comment ça marche. Et notamment le moustique, le virus, parce que vous avez 3500 espèces de moustiques et tous les moustiques ne transmettent pas des virus.
Heureusement.
Et tous les moustiques ne piquent pas l'homme. Donc, dans certains cas, ça marche. Et pourquoi ça marche? Et donc, ça, c'est une interrogation de beaucoup de laboratoires de recherche. Mmh. Et après, une fois qu'on a compris cela, il faut essayer de savoir comment on interrompt la transmission. Ouais. De faire en sorte qu'un moustique ne soit plus capable de transmettre. Et donc, là, c'est toutes les recherches sur les moustiques génétiquement modifié.
Oui.
Et parce qu'en face à ce genre de maladie, notamment la dengue, il n'y a pas de vaccin qui marche très bien, il n'y a pas de traitement. Donc la seule chose, c'est tuer le moustique. Et tuer le moustique, on a jusqu'à aujourd'hui les insecticides. Et ces insecticides ne marchent pas très 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 bien.
Et donc c'est de faire le moustique le tueur lui-même, hein, en tout cas. Hein.
Voilà, et c'est un moustique qui se saborde d'une certaine façon, de façon à ce qu'il soit pas, que la descendance ne soit pas fertile, donc il n'y a plus de descendants, ou bien que le moustique ne transmette plus.
Ouais. Patrice de Seine, alors donc vous êtes le réalisateur de ce film, vous avez suivi des dizaines de moustiques pour ce documentaire. Il y avait une question de Christian Clot tout à l'heure en antenne qui se demandait mais comment on fait pour filmer un moustique, hein, c'est vrai.
Ben, on filme pas vraiment un moustique, on a plusieurs possibilités. Là, on est parti avec des drones, avec des GoPro, avec des caméras, et on a construit aussi des images de synthèse en 3D.
Qui sont très belles d'ailleurs, très pédagogiques aussi pour bien comprendre ce qui se passe. Hein.
Absolument. Et donc avec tout ça, on s'est mis dans ce film un peu dans l'œil du moustique. Mmh. On le suit, on est avec lui, on va piquer avec
lui. On va piquer les peaux et on va pénétrer dans la peau. Ouais, ouais.
Donc on a des drones qui nous permettent aussi de survoler tous les lieux où le moustique se développe et ouais. Où il peut se développer, notamment effectivement dans les villes aujourd'hui. Quoi.
Donc vous avez voyagé absolument partout.
Oui, on a voyagé au Cambodge. Mmh. On a voyagé au Cambodge avec un moustique qui s'appelle l'Aedes aegypti. On est allé aussi en Burkina Faso, bien sûr, pour le paludisme avec l'Anophèle. Et puis au Brésil, on a une très longue séquence. Cambodge, c'était Culex. C'était un Culex. C'est au Brésil qu'on a eu l'Aedes aegypti. Et donc on est allé aussi, bien sûr, en France, puisqu'on voit apparaître. Ouais. L'Aedes albopictus, le fameux moustique tigre qui est en train de remonter vers le nord.
Eh bien justement, nous allons nous au Brésil faire une première escale, extrait de ce documentaire.
Rio de Janeiro est un carrefour pour les hommes qui voyagent et qui portent parfois le virus, mais aussi pour les marchandises expédiées dans tout le pays qui peuvent contenir des passagers clandestins, les œufs des moustiques. Ces œufs, prêts à éclore, se retrouvent dans d'autres villes brésiliennes comme Manaus, au cœur de l'Amazonie. Et quand le virus, qui a voyagé avec les hommes, rencontre un moustique, la dengue se propage. Sergio Luz, directeur de la Fiocruz de Manaus, s'inquiète particulièrement des nouveaux cas de dengue déclarés dans les quartiers périphériques.
Si des personnes infectées arrivent, vous créez évidemment les conditions idéales pour la formation d'un nouveau cycle épidémique. Nous avons eu ici 35 000 cas de dengue. Pour une ville de 2 millions d'habitants, cela fait beaucoup.
Voilà donc extrait de ce documentaire que vous verrez demain sur France 5, Invasion moustique. Et donc vous évoquiez cette piste de moustiques transgéniques pour pouvoir lutter. C'est très efficace ou pas ?
C'est efficace sous certaines conditions. Toutes les mesures sont efficaces, mais après, on ne va pas arriver à l'éradication du moustique, ça c'est certain. Il faut se mettre ça dans la tête. Donc en fait, il y a une combinaison de différentes techniques, hein, aussi bien l'utilisation d'insecticides que de la lutte biologique, par exemple. Vous savez que mettre des poissons dans une mare, ça tue les moustiques, puisqu'en fait, les poissons mangent les moustiques. Hein. Vous avez aussi des moustiques papillons, dont les larves mangent les larves de moustiques. Vous avez une combinaison de différentes techniques qui, au final, va limiter la densité des moustiques, donc le risque de transmission.
Frédéric Keck.
Oui, ce qui est intéressant dans la réflexion sur les maladies infectieuses émergentes ou invasives, c'est que les moustiques sont des révélateurs de transformation d'écosystèmes, c'est des vecteurs. Et on voit bien dans le film qu'au Brésil, c'est la présence des moustiques dans l'eau, au Cambodge, ils infectent les cochons et les poulets. Donc selon les endroits dans lesquels les hommes vivent, ils ont des relations différentes avec les moustiques.
Avec les effets de la déforestation aussi, hein, qui comptent pour beaucoup, justement, dans la situation mondiale actuelle, Patrice Dessène.
Oui, enfin, c'est le premier étonnement. La surprise, c'est que l'homme favorise énormément l'installation des moustiques un peu partout. Effectivement, la déforestation, l'urbanisation, la mondialisation, maintenant ils voyagent partout. Et en plus, l'autre point important, c'est effectivement cette faculté incroyable des moustiques à s'adapter. Ouais. Ils s'adaptent aux villes, ils s'adaptent. On me dit même qu'aujourd'hui, il y en a certains qui se réintroduisent dans la forêt, comme le tigre au Gabon, qui se réintroduisent dans la forêt. Donc ils s'adaptent partout, ils transportent toujours le virus en quantité d'ailleurs, plusieurs pour certains.
Annabelle, c'est impressionnant.
Mais écoutez, le fameux moustique Aedes aegypti, c'est un moustique en fait qui a été créé par l'homme et qui vit à côté de lui. C'est un moustique en fait qui prend des repas de sang que sur l'homme. Il ne prend pas de repas de sang sur autre chose. Je répète seulement que c'est que la femelle qui pique. Hein.
Oui, oui.
Donc les femelles, elles prennent du sang pour pouvoir assurer le développement de leurs œufs. Et elles se développent dans des gîtes larvaires à proximité de l'homme. Donc en fait, on a développé un écosystème pour les moustiques, pour qu'ils soient à côté de nous. Donc forcément, quand il y a des épidémies, eh ben, ça flambe tout de suite. Hein. Parce qu'on a un moustique hyper anthropophile.
Étienne Quéclin.
Est-ce qu'on fait un lien, j'ai une question à vous poser, à propos du lien possible entre la propagation des moustiques et le réchauffement climatique
En fait, c'est le moustique, la plupart des invertébrés ne régulent pas la température. Donc forcément, quand il fait plus chaud, le développement du moustique va s'accélérer. Donc on a un nombre de générations plus important. Et en même temps, quand on infecte le moustique, la multiplication du virus dans le moustique va s'accélérer. Donc au final, en fait, on va se trouver à une forte densité de moustiques et des moustiques sont capables de transmettre plus rapidement. Donc forcément, il n'y a pas un lien direct, mais il y a quand même des conséquences pas du changement, mais de l'élévation de température sur la transmission vectorielle.
Ouais. Frédéric, vous avez vu le documentaire, hein, je sais, il y a deux jours, il y a cette scène extraordinaire, on voit justement cette dissémination de moustiques transgéniques qui est assez étonnante.
Oui, c'est assez joli parce qu'on voit les moustiques cultivés en laboratoire, oui. Donc d'abord comme œufs, puis comme larves, et ensuite ils sont mis dans des bocaux et les bocaux sont ouverts en pleine rue. Et il y a un mouvement d'essaim, en fait, où les moustiques s'échappent. Et ensuite, on sait qu'ils vont tuer les autres moustiques. Ouais. Mais ça, on ne le voit pas.
Mais ce sont des millions de moustiques qui sont disséminés pour cette opération particulière. Hein. C'est une première au monde, d'ailleurs.
Oui, 120 millions de moustiques ont été
disséminés. On n'a pas de recul pour l'instant, parce que mettre des animaux transgéniques comme ça dans la nature, on ne sait pas ce que ça peut donner aussi, non?
En fait, on parle là d'un moustique qui a été manipulé de façon à ce qu'il arrête la transmission vectorielle. Donc on va lâcher des femelles en général, qui, dans la nature, qui vont entrer en compétition avec d'autres moustiques dans l'objectif de remplacer la population sauvage. Mm-hmm. Donc c'est des choses en fait qui marchent très bien en laboratoire, dans une cage, toute petite cage. Ouais. Et là on va faire des essais sur le terrain, parce qu'aujourd'hui le Brésil n'a plus d'autres moyens de lutter contre les moustiques. Donc forcément ils vont utiliser tout ce qu'il faudra pour essayer de faire des tests sur le terrain, pour voir si ces méthodes en laboratoire marchent sur le terrain.
Qu'est-ce que vous conseillez à Christian Clois avant de partir en expédition, parce que lui va être confronté sans arrêt aux moustiques en Amazonie en particulier? C'est quoi la petite... Parce que même les crèmes ne font plus rien. Les moustiques se sont vraiment adaptés à ça. Hein.
Je pense qu'il faut qu'il s'accompagne de quelqu'un qui attire les moustiques.
Ah ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
En fait, c'est ça. Changer l'expédition solitaire.
C'est ça votre histoire, en fait, de constituer un groupe de 20 personnes. C'est trouver
ça génial. 19 qui sont... Voilà.
Solution très biologique.
Voilà. Vous êtes démasqué, on a compris, en fait, votre intention.
Je savais que ça viendrait.
Allez, documentaire, donc, Invasion moustique, ce sera demain sur France 5, première diffusion. Diffusion à 19h.
19h.
19h, tout simplement. Voilà. Et la suite du club dans un instant pour parler des 10 ans du musée du Quai Branly. Vous êtes sur France Inter. Bon après-midi. Hush not child, and don't cry. Your folks might understand you. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. We'll be right back. Move on up, Curtis Mayfield, à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et pour terminer ce club, aujourd'hui, les 10 ans du musée du Quai Branly. Frédéric Quay, vous êtes anthropologue, directeur du département de la recherche et de l'enseignement, justement, au musée. Est-ce que vous êtes inquiet de temps en temps lorsque vous voyez arriver des objets du monde entier, s'ils se transportent avec eux, justement, des insectes ou des moustiques ?
Effectivement, il y a beaucoup d'objets qui ont des composants organiques, du poil, des plumes ou qui sont en bois.
C'est vrai.
Et donc, quand ils viennent soit de collectionneurs, soit directement des autres sociétés, ils passent par une chambre d'anoxie. Donc, on retire l'oxygène pendant 15 jours de façon à ce que tout ce qui est vivant à l'intérieur de ces objets meurt. Et ensuite, ils peuvent rentrer dans les collections qui sont très sécurisées. Et il y a une carte de suivi des infestations sur le plateau des collections.
Ah, tiens.
Et on s'est rendu compte que la tour des instruments de musique que les visiteurs voient à l'entrée, qui en fait sont les seules réserves ouvertes, visibles par le visiteur, sont particulièrement infestées, notamment près des vestiaires. Puisqu'il y aurait une transmission des.
Ah, ben c'est vraiment rassurant ce que vous nous dites.
Vers les instruments de musique.
C'est vrai? Mais alors, comment vous faites pour protéger tout ça ?
Il y a une veille permanente et puis on regarde la poussière. On a aussi des programmes pour écouter les sons des insectes qui grignotent le bois.
D'accord.
Et on nettoie les objets qui sont infestés.
Bon, c'est une drôle d'entrée en matière pour parler du week-end porte ouverte. Mais bon, au moins, vous nous dites un petit peu ce qui se passe chez vous. Alors donc, c'est 2 jours avec une nuit blanche également, samedi, c'est ça ?
Oui, effectivement. Donc, pendant 2 jours, beaucoup d'activités au musée du Quai Branly, notamment une carte blanche donnée aux chercheurs du CNRS pour parler. Par exemple, de ces matériaux, des objets du Quai Branly, des usages des instruments de musique pour des nouvelles recherches sur la musicologie.
Il y aura des speed dating, c'est ça ?
Speed dating avec des chercheurs.
Ah, pas mal.
Il y a aussi une conversation entre Jean Nouvel, l'architecte du musée, et Stéphane Martin, son président. Et puis des présentations d'objets par des conservateurs ou des anthropologues qui vont raconter leur histoire.
Ouais, donc 2 jours et porte ouverte, donc gratuit pour le public qui va pouvoir venir vous voir. Et puis effectivement, cette exposition autour de Jacques Chirac, parce que le musée a été rebaptisé, Musée du Quai Branly Jacques Chirac, pour rendre hommage donc à son fondateur. Petit extrait justement d'archives, c'était précisément en juin 2006, il a donc 10 ans tout juste.
Dans la pénombre, les trésors des 4 continents, masques et fétiches d'Afrique, statues en granit de Polynésie, chefs inuits, parures indiennes, étoffes mongoles. Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, explique la culture guatémaltèque. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, celle du Canada. Puis dans le grand amphithéâtre où travailleront plus tard étudiants et chercheurs, les personnalités de tous bords se bousculent.
En montrant qu'il existe d'autres manières d'agir et de penser, d'autres relations entre les êtres, d'autres rapports au monde, le musée du Quai Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. Et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que s'entrevoit l'universel qui nous rassemble.
Voilà, juin 2006, des mots qui résonnent tout particulièrement aujourd'hui avec le Brexit qui l'a emporté, Frédéric Quay.
Oui, effectivement, Jacques Chirac a toujours eu cette sensibilité, cette curiosité pour les sociétés éloignées. L'exposition montre qu'il allait au musée Guimet à l'âge où d'autres vont plutôt au musée du Louvre. En même temps, cette exposition, c'est un peu une initiation à ce qu'on a appelé les arts premiers, c'est-à-dire ces espèces de croisements ou de carambolages, comme on dit aujourd'hui, entre l'art contemporain et puis les arts de toutes les autres sociétés. On découvre aussi le rôle de Jacques Chirac comme fondateur de musées par sa carrière politique. Ça a été le Centre Pompidou, l'Institut du monde arabe.
Ouais. Comment vous avez monté cette exposition exactement autour de Jacques Chirac? Parce que c'est quand même très délicat de prendre un homme politique encore en vie d'ailleurs, et puis d'essayer de trouver un fil pour présenter des œuvres d'art avant tout venues du monde entier. Comment vous avez inventé cette histoire au fond?
Alors c'est Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre de la Culture de Jacques Chirac, qui a composé le parcours d'œuvre. Et puis, en suivant ce parcours, on suit aussi la vie de Jacques Chirac. Jacques Chirac joue un peu dans cette exposition le rôle que joue la petite Eugénie dans la bande dessinée de Riyad Satouf qu'on découvre en ce moment dans les journaux. C'est-à-dire que c'est un regard assez innocent, très, très personnel sur ces arts du monde entier. Ouais. Et c'est à partir de cette sensibilité personnelle qu'il a rassemblé donc, les collections du Musée de l'Homme et du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie.
Vous partez de son père d'ailleurs, l'exposition part de son père à Jacques Chirac pour dérouler ce fil de l'histoire et s'intéresser donc à ses œuvres venues du monde entier. Donc 200 objets à découvrir, dont ce fameux masque japonais qui vous a beaucoup servi aussi pour faire la promotion de cette exposition et qui est absolument troublant parce que on dirait la marionnette des guignols de Jacques Chirac, alors que c'est un véritable objet qui date du 18e. D'ailleurs, il y en a trois.
Oui, il y en a trois. Il y a aussi une ceinture de sumo qui lui a été offerte, qui est magnifique.
Ouais. Et des œuvres d'art contemporain aussi, on peut les découvrir. Il faut pas oublier que le musée du Quai Branly, ça n'est pas qu'un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu de recherche. Et ça, peut-être que le public le sait beaucoup moins, Frédéric Kiek.
Oui, effectivement. Donc, le musée du Quai Branly est sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche. C'était un souhait de Lionel Jospin, qui était le premier ministre de Jacques Chirac. Le musée du Quai Branly est avec l'Institut National d'Histoire de l'Art. Les deux grands projets culturels de la période de la cohabitation. Mmh. Et c'est en fait l'idée que Lionel Jospin a beaucoup soutenue en même temps que Jacques Chirac, de faire des infrastructures de la recherche, c'est-à-dire de considérer des collections de musées ou des bibliothèques comme des outils pour des chercheurs en sciences humaines.
Mmh. Qu'est-ce qu'on étudie par exemple au musée du Quai Branly? On parlait des insectes, je crois qu'il y a des programmes de recherche justement sur les insectes.
Alors il y a des programmes
insectes,
de restauration-conservation, donc d'analyse des différents matériaux dont sont composés les objets. Et puis, il y a beaucoup de recherches en anthropologie et en histoire de l'art pour comprendre l'histoire de ces objets qui font qu'ils sont passés par les mains de fabricants rituels, de rois, de collectionneurs. Et puis finalement, ils sont arrivés dans les musées. Donc, on étudie leur patrimonialisation, comment ils rentrent dans le patrimoine national. Et puis aussi, on s'intéresse aux différents regards que des visiteurs peuvent porter sur ces objets. Par exemple, en faisant...
Ça fait partie d'objets de recherche aussi.
Oui, tout à fait, parce que c'est la médiation, en fait, avec le public. Qu'est-ce qui fait que le public va voir ces objets? Comment il est interpellé par ces objets? Comment il interagit avec eux? Et c'est pour ça qu'on a cette exposition en ce moment sur les robots. Avec un robot qui circule sur le plateau pour regarder les objets tels que les visiteurs les regardent avec un logiciel d'apprentissage.
Et donc vous interrogez ensuite les visiteurs à l'issue de ces rendez-vous au Quai Branly pour savoir un petit peu comment ils perçoivent ces objets?
Oui, voilà, il y a beaucoup d'études sur les publics. Et puis il y a cette étude aussi technologique sur quels sont les points d'intérêt quand ils regardent les objets.
Ouais. Qu'est-ce qui a le mieux marché en 10 ans au niveau des expositions au musée du Quai Branly? Est-ce que c'est l'expo sur le tatouage?
L'expo tatouage a duré un an et demi, elle a été assez longue. Ouais. Et c'est les expos transversales qui sont sur la mezzanine ouest, qui justement sont plutôt dédiées à des questions de recherche. Et puis il y a eu des grandes expositions aussi maori, kanak, dogon qui ont marqué l'histoire de l'art extra-occidental.
Mais Tatoueur Tatoué, je crois, fait 700 000 visiteurs et arrive en tête, je crois, du nombre d'entrées pour des expositions temporaires. Voilà, donc ce week-end anniversaire au musée du Quai Branly, c'est gratuit avec ses portes ouvertes, donc demain et dimanche. Merci beaucoup Frédéric Heck d'être venu nous en parler. Christian Clos, bonne expédition alors au mois d'août pour l'Iran.
Merci, on pourra suivre
bon courage,
ça.
On va vous suivre.
Je vous raconterai.
Oui, et puis on va s'intéresser à votre cerveau, voir un petit peu comment il réagit dans ces conditions extrêmes. Et puis Invasion Moustique sur France 5, c'est donc demain à 19h.